Jésus a envoyé ses disciples en mission, c'était avant son ascension, mais les disciples sont restés dans un premier temps là où ils étaient, à Jérusalem, jusqu'à la mort d'Étienne. Après cet événement terrible, en Actes 8, verset 1, nous pouvons lire « Il y eut une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. » L'Église a commencé à bouger de Jérusalem jusqu'à la Judée et à la Samarie. Ce n'est pas encore toutes les nations, mais pendant leur voyage, les membres de l'Église persécutés ont partagé l'évangile de Jésus. Mystérieusement poussés d'ailleurs par cette persécution, l'Église se trouvait alors dans une période de développement rapide. L'apôtre Pierre, ensuite en acte 10, est allé sur l'ordre de Dieu vers un homme qui s'appelait Corneille, un non-juif, un païen. Dieu a donc poussé son Église, d'abord Pierre, vers les gens considérés comme impurs par les Juifs. Corneille, le premier païen en contact avec l'Évangile, se convertit et toute sa maison avec lui. Et à ce moment-là, un nouveau chapitre de l'Église commence. Et ce chapitre ne sera pas sans problème. Après quelques années, dans certains lieux, il y avait plus de non-juifs dans l'Église que de juifs. Ces non-juifs ne connaissaient forcément pas bien l'arrière-plan, toute l'histoire du peuple d'Israël, tout l'arrière-plan de l'Église. Ils ne connaissaient pas bien ses racines dans le peuple juif, et cela provoquait de nouvelles questions. Fallait-il que tous les non-juifs deviennent d'abord des juifs en observant les lois juives et surtout cette tradition pour les hommes de la circoncision pour être sauvés? Cette question touche à la doctrine du salut et selon la réponse qu'on y apporte, il y a le danger de faire du salut une œuvre humaine au lieu d'être l'œuvre gratuite de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul notamment va rappeler dans plusieurs de ses épîtres. Non, le salut est entièrement gratuit. Il ne dépend d'aucune œuvre humaine. Ce que Dieu a fait à travers Jésus, c'est de nous offrir le salut par grâce et nous n'y contribuons en rien. Nous voyons cela notamment dans l'épître aux Galates que nous allons lire dans un instant. C'est une lettre que Paul écrit aux églises qu'il a implantées pendant son premier voyage missionnaire. Je suis au courant qu'il y a un petit peu un débat sur exactement les destinataires à qui Paul écrit cette lettre, mais je prends position. Donc pendant son premier voyage missionnaire, les églises d'Antioche, de Pisidie, d'Icône, de Lystre, de Derbe, qu'on peut trouver dans le livre des Actes au chapitre 13 et 14, ce sont les églises de la région de la Galatie. Et dans cette église de la Galatie, l'évangile est menacé, et cela préoccupe Paul à tel point qu'il va leur écrire une lettre assez sévère d'ailleurs. Il ne commencera pas par les traditionnelles actions de grâce au début de toutes ces épîtres. Et je vous lis maintenant les 10 premiers versets de l'épître aux Galates. Donc Galates chapitre 1, les versets 1 à 10, et je vous lis dans la version second 21. De la part de Paul, apôtre établi non par des hommes ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité, et de tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Pour devenir chrétien, il faut bien sûr croire en Jésus. Mais cela suffit-il? Certains chrétiens d'origine juive, qu'on appelle souvent les judaïsants, croyaient à un autre évangile que celui que Paul avait enseigné lorsqu'il avait fondé les églises de la Galatie. Les judaïsants ne faisaient pas que remettre en cause l'évangile, ils sapaient aussi l'autorité de Paul. Selon eux, Paul n'était pas un véritable apôtre, et si Paul était discrédité, alors ses enseignements le seraient aussi. Les judaïsants attaquent donc sur deux fronts, le messager, l'apôtre Paul, et le message, l'évangile par grâce, le salut par grâce. Et ils ont d'ailleurs un certain succès, ces judaïsants, puisque les versets 6 et 7 nous disent que les chrétiens de la Galatie, du moins certains, confessent un autre évangile, un évangile différent. Et Paul continue en disant, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Alors dans cette lettre, Paul, dans la lettre aux Galates, Paul va défendre non seulement l'évangile, l'honneur de Dieu, mais aussi son propre ministère, l'origine aussi de son apostolat, de sa position dans l'Église. Il n'est pas apôtre parce qu'il lui semblait bon de devenir apôtre. Il n'est pas apôtre parce qu'un autre homme lui a donné ce titre d'apôtre. Il est apôtre parce que c'était la volonté de Dieu. Et la conclusion qu'il voulait que ses lecteurs en tirent, c'est que s'il était apôtre parce que Dieu l'avait voulu, alors ses lecteurs pouvaient avoir confiance en lui et en son message. Même si nous n'avons pas la même autorité que les apôtres qui ont rédigé le Nouveau Testament, nous avons la parole de Dieu, nous connaissons les paroles des apôtres qui témoignent de Jésus. Et surtout, nous avons aussi, nous, été choisis. Choisis pour appartenir à Jésus et choisis pour une mission. Et c'est la mission que Jésus donne à tous ses disciples avant son départ. Faite de toutes les nations des disciples. Alors parfois on a peur peut-être d'exprimer notre foi. Alors pourquoi peut-être avons-nous peur? La première raison peut-être c'est que le message de l'évangile contient des éléments difficiles à annoncer. Et la seconde c'est peut-être aussi notre propre vie. Nous ne sommes pas toujours exemplaires. Il est important de se rappeler que le message de l'Évangile ne dépend pas de nous. Dans une autre épître aux Romains, Paul dit, en Romains 1, 16, que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Vous avez remarqué que Paul n'ajoute rien, hein, il dit simplement que l'Évangile est une puissance de Dieu pour celui que quiconque croit. Il ne dit pas, l'Évangile est une puissance de Dieu pour celui qui croit si Matthieu Audap ne fait que des choses bien. Si Matthieu Audap est irréprochable. Dieu nous utilise tels que nous sommes pour répandre son message dans le monde, tout en nous transformant progressivement. Et maintenant le message, sommes-nous capables d'expliquer notre foi simplement et clairement? Paul nous y aide et nous donne en quelques lignes le message de l'Évangile. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons dire, rien qu'avec ces trois versets, dans les salutations de l'Épître aux Galates, concernant l'Évangile? Les deux mots, grâce et paix, nous disent, en résumant bien sûr, le message et l'essentiel du message de l'Évangile. Parce que ces deux mots nous parlent à la fois de la nature de l'Évangile et de la source de la bonne nouvelle, la source du salut. La nature du salut, c'est la paix avec Dieu, la réconciliation avec Dieu. La bonne nouvelle, c'est que je peux être en paix avec Dieu. Et cela parce que Dieu accorde le pardon à celui qui le demande. Il a le pouvoir d'accorder ce pardon parce que Jésus-Christ a accompli la justice de Dieu pour nous. Et la source du salut, c'est la grâce. La grâce, c'est le cadeau que nous ne méritons pas, que Dieu nous fait. Nous ne méritons pas le salut et nous ne pouvons pas le gagner non plus par nos œuvres ou parce que nous sommes bons. La grâce de Dieu est accordée à celui qui croit parce que Jésus s'est donné pour nos péchés. Jésus s'est donné en sacrifice pour le péché, pour accomplir la justice de Dieu. Et seul Jésus pouvait payer ce prix. C'est un prix que aucun d'entre nous n'est capable de payer. La mort de Jésus apporte non seulement le pardon, mais aussi une vie nouvelle. Nous avons été arrachés du présent siècle mauvais, nous dit Paul. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Alors nous péchons encore, mais ce n'est plus notre habitude. Et nous sommes engagés sur un chemin de progrès vis-à-vis du péché et des combats que nous avons encore dans nos vies. Avec l'Esprit de Dieu, nous avons de quoi lutter et même gagner contre le péché. Nous ne sommes plus ce que nous étions avant, pris au piège par le péché et peut-être même inconscients de notre statut devant Dieu, de notre statut de coupable devant Dieu. Désormais, notre espérance est celle de vivre pour l'éternité dans une nouvelle création remplie de la présence de Dieu. Et nous vivons déjà une partie de cette espérance par l'Esprit, les arts de l'Esprit. L'Esprit, ce sont les arts de l'héritage qui nous attend encore. L'Esprit qui nous est donné afin de mener une vie qui plaît à Dieu. Le pardon, l'espérance, la grâce, la paix sont les mots-clés de l'Évangile. Et on pourrait dire du coup que c'est le cœur de l'Évangile. Cet Évangile que nous ne voulons pas garder pour nous-mêmes, mais que nous vous souhaitons partager, alors certes il faut du courage, un peu d'audace, quelquefois, mais surtout un cœur ouvert, disponible pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, pour pouvoir leur parler de lui et de ce qu'il a fait. Partager l'Évangile. Et puis pour partager l'Évangile, il est important de le repasser dans son cœur, se le remémorer, se le redire, méditer son message. Et cela nous permettra aussi de débusquer les faux évangiles. Quand nous-mêmes ou quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, dit Paul. Un terme qui est traduit aussi par maudit dans certaines traductions. La situation des églises de la Galatie était sérieuse. Paul ne prononce que deux anathèmes dans l'ensemble de ses lettres. Et là, c'est dans Galates 1, nous en avons un. Et l'autre est en 1 Corinthiens 16, 22, lorsqu'il dit que celui qui n'aime pas le Seigneur soit anathème. Les chrétiens judaïsants qui ont mis en doute Paul et son message, ils ont tenté de changer l'Évangile en niant la grâce de Dieu seul pour le salut, en y ajoutant les œuvres de l'homme. Paul était furieux car l'Évangile changé n'est plus l'Évangile. Et le mot anathème peut être traduit, comme je le disais, par maudit aussi. C'est un terme très fort. Nous n'avons pas le droit, et c'est ce que Paul dit là, de changer l'Évangile. Alors peut-être que dans la forme, on a le droit, dans les mots qu'on va utiliser peut-être, ou voilà, de formuler de façon différente l'Évangile, mais le message ne doit pas changer. Pourquoi ? Parce que si on ajoute quelque chose à l'Évangile, c'est comme si nous disions que ce que Jésus a fait à la croix n'était pas suffisant. C'est comme si nous disions que Dieu n'a pas assez fait pour nous. Il faut encore ajouter quelque chose pour notre salut. Croire que nous devons ajouter quelque chose à l'Évangile revient à dire que le sacrifice de Jésus à la croix n'était pas pleinement suffisant, pas pleinement efficace, et que nos œuvres seraient aussi nécessaires au salut. Dans la vie chrétienne, il y a beaucoup de points de théologie sur lesquels nous pouvons discuter, mais l'Évangile n'est pas un de ces points. Si des personnes ajoutent quelque chose à l'Évangile, ne nous laissons pas entraîner. si des personnes suppriment aussi des éléments de l'Évangile qui sont à leur avis peut-être trop difficiles à accepter pour l'homme moderne, alors débusquons aussi leurs erreurs, tout comme Paul nous y invite. Paul a dit d'ailleurs « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » L'enseignement des faux docteurs dans les églises de la Galatie plaisait aux hommes. Ils flattaient en quelque sorte leur ego en leur disant qu'ils pourraient contribuer à leur salut par des œuvres. Henri Blocher a dit dans une conférence qu'il était étonné une fois de voir que ce qui faisait la popularité d'une thèse en théologie, c'était qu'elle plaisait, et ce n'était pas forcément la rigueur de son argumentation, ni la qualité des arguments avancés. Là où l'Évangile est changé, c'est probablement pour plaire. Il est vrai que le message de l'Évangile est difficile à accepter, en tout cas il contient des éléments difficiles à accepter, car il me dit que je ne peux pas me sauver, que ce n'est pas à la force de mes bras que je peux escalader le mur qui me sépare de Dieu, mais que j'ai besoin de me baisser pour passer par la porte étroite, pour entrer dans le royaume de Dieu. Je ne peux pas me sauver par ma propre force. L'Évangile me dit aussi que j'ai besoin de quelqu'un d'autre. Il me dit que devant Dieu, je suis un pécheur perdu. Ça, ce sont des vérités difficiles à accepter. Parce que notre société nous dit que nous sommes nos propres dieux, que nous pouvons nous améliorer si nous faisons ceci ou cela, et même que les ressources du bonheur seraient en nous. L'Évangile attaque de front ces pensées, parce que l'Évangile révèle que nous sommes des créatures entièrement dépendantes de Dieu pour leur salut. Les notions de péché, de colère aussi de Dieu, de condamnation, de jugement nous dérangent. Ne pourrait-on pas les remplacer, les adoucir afin que l'Évangile soit accepté ? La question est de savoir à qui je cherche à plaire, à Dieu ou aux hommes, en tout cas en premier, à qui je cherche à plaire. À Dieu ou aux hommes. Si je veux dire l'Évangile à un moment ou à un autre, j'aurai à parler, aussi aborder des questions qui sont plus difficiles. Alors on peut éviter certains termes. Si le terme péché peut bloquer dans une discussion, on peut utiliser d'autres mots, de commettre des fautes pour Dieu, de blesser Dieu, pourquoi pas. Mais j'aurai à un moment donné à aborder certaines questions si je veux annoncer l'Évangile. Parler de la désobéissance à Dieu, du cœur dur que l'homme a envers Dieu. D'un autre côté, le message de l'Évangile est si simple, alors il contient des éléments difficiles à accepter, mais d'un autre côté, il est si simple que même un enfant peut le comprendre et l'accepter. D'ailleurs, pour beaucoup, l'Évangile est peut-être même trop simple. Il n'est pas assez compliqué pour nos pensées tordues. Suis-je vraiment pardonné et adopté dans la famille de Dieu seulement en reconnaissant mon état devant Dieu et en me repentant et en acceptant de lui faire confiance ? C'est seulement comme ça que je suis sauvé ? Pour certains, ça serait trop simple. Et donc, ils ajoutent des lois, des règles qui sont censées nous rassurer que nous sommes dans le bon chemin. Ouf, je peux souffler un peu parce que j'ai fait ce qu'il faut faire aujourd'hui. Cela nous plaît, mais est-ce que cela plaît à Dieu ? Lisons à présent la suite du chapitre. Galates, toujours chapitre 1, du coup versets 11 à 24, du coup jusqu'à la fin du chapitre. « Je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Vous avez d'ailleurs entendu parler de mon comportement autrefois dans le judaïsme. Je persécutais à outrance l'Église de Dieu. Je cherchais à la détruire. Et j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple, car j'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes ancêtres. Mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce. Lorsqu'il a trouvé bon de révéler son Fils en moi, afin que je l'annonce parmi les non-juifs. Je n'ai consulté personne. Je ne suis même pas monté à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je suis aussitôt parti pour l'Arabie, puis je suis retourné à Damas. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, et je suis resté 15 jours chez lui. Mais je n'ai vu aucun autre apôtre, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, je l'affirme devant Dieu, je ne mens pas. Je suis allé ensuite dans les régions de la Syrie et de la Cilicie. Or, mon visage était inconnu des églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire « Celui qui nous persécutait auparavant annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. » Et elles rendaient gloire à Dieu à cause de moi. Un de mes chants préférés s'appelle « Grâce infinie ». Voici juste un petit extrait des paroles. « Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu, quand il m'a retrouvé. » Très connu, ce chant très connu, avec son titre en anglais, « Amazing Grace ». Ce chant, vous le savez peut-être, a été écrit par John Newton. John Newton était un capitaine de bateau qui transportait des esclaves. C'était un marchand d'esclaves. Il n'était pas religieux, mais un jour, au milieu d'une tempête, il a crié à Dieu, « Seigneur, aie pitié de moi. » Et plus tard, il a appelé ce jour-là, le jour de sa grande délivrance. John Newton a compris la profondeur de l'amour de Dieu qu'il a cherché et sauvé. C'est d'ailleurs ce que Jésus est venu faire. Il est venu sur terre pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Luc 19, 10. Et déjà dans le jardin d'Éden, en Genèse 3, Dieu cherchait Adam et Ève après la chute. Notre Dieu est un Dieu qui nous cherche. Pour Paul, le jour de sa grande délivrance, le grand moment de sa vie, de sa rencontre avec Jésus, c'était sur le chemin de Damas, lorsque Dieu est intervenu, que Paul est tombé de son cheval et qu'il a entendu la voix de Dieu. Dieu est venu chercher ceux qui étaient perdus. Et Paul dit, « Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils. » C'était à un moment donné de sa vie que Dieu a choisi de l'appeler. Le salut est selon le plaisir de Dieu, lorsqu'il plut à Dieu d'appeler Paul, il l'a fait. Le salut vient de Dieu. De cela, nous sommes bien au courant. Dieu nous a choisis pour le salut, et cela depuis qu'il a établi son plan de salut. Paul dit même que c'était depuis le sein maternel. Notre salut n'est pas une question de hasard. Nous avons été choisis pour appartenir à Dieu. Paul nous dit aussi dans ce même verset, le verset 16, que Dieu a révélé son Fils en lui. La conversion est une expérience. Nous disons oui, effectivement, à des propositions de foi concernant Dieu, Jésus, le péché et nous-mêmes. Mais nous ne donnons pas seulement un assentiment qui est intellectuel à une série de propositions, à une confession de foi. Nous entrons dans une relation personnelle avec Jésus, parce que Dieu révèle son Fils en nous. Jésus lui-même est d'ailleurs le message de l'Évangile. Il est lui-même, en tant que personne, la bonne nouvelle de Dieu. Il est l'objet aussi de notre foi. Nous croyons en Jésus. Il n'y a aucune religion qui offre une relation personnelle avec Dieu. Pourquoi ? Parce que les religions sont des tentatives de l'homme d'atteindre Dieu par ses propres œuvres. Et la venue de Jésus, sa mort sur la croix, puis sa résurrection, c'est l'inverse. C'est la main de Dieu, tendue vers un monde incapable d'atteindre Dieu par lui-même. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a toute une dispersion dans les religions, et les croyances sont multiples. À ses propres yeux, Paul pouvait se considérer comme quelqu'un de bien, comme un chic type. Pour les chrétiens des premiers jours de l'Église, il était terrifiant. Mais à sa conversion, Dieu a redirigé sa vie. si bien que Paul s'est mis à prêcher l'évangile qu'il avait méprisé et combattu auparavant. Il y a eu un changement de cœur chez lui. L'église qu'il a persécutée est devenue l'église pour laquelle il a travaillé et souffert jusqu'à la fin de ses jours, parce que l'évangile a transformé sa vie. Alors nous n'avons peut-être pas forcément un témoignage personnel aussi spectaculaire que celui de Paul sur le chemin de Damas, mais chacun de nous a néanmoins son histoire. Si vous êtes chrétien, vous avez été changé. Votre vie, à un moment donné, a été réorientée, même si cela s'est fait de façon progressive. Peut-être votre conversion n'était-elle pas aussi soudaine que celle de Paul, mais votre vie est maintenant destinée à plaire à Dieu, comme la vie de Paul. Et la vie de Paul nous montre aussi, surtout, que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Paul cherchait sa propre justice, sa propre justification à travers ses œuvres. Et c'était une impasse. Il a même fait le contraire de ce que Dieu voulait, en pensant faire bien. On ne peut pas plaire à Dieu ainsi. C'est seulement quand Dieu est intervenu dans sa vie que Paul est devenu capable de vivre une vie qui plaît à Dieu. Et cela par la grâce de Dieu. Et il n'arrête pas de le dire sans arrêt. Ce n'est pas parce qu'il était spécialement une personne bien, au contraire. La grâce de Dieu. Et c'est ainsi pour nous aussi. Si nous appartenons à Jésus, nous sommes capables de vivre désormais une vie qui plaît à Dieu. Amen.